Salut, moi c'est Mélodie de M ta maternité et je te souhaite la bienvenue sur le M podcast. M pour maman, M pour magie, mystère, matrice et bien sûr M pour Mélodie. Je voulais créer un espace sans jugement où les femmes se racontent leurs accouchements, leur cheminement personnel et spirituel. À travers mes expériences de doula, j'ai découvert que pour faciliter la grossesse, l'accouchement et notre naissance en tant que mère, on doit aborder la maternité différemment. On se doit de l'aborder comme ce qu'elle est vraiment, la plus grande transformation de notre vie. Chaque vendredi, viens déconstruire tes croyances pour te redonner confiance en ta capacité d'enfanter et en ta puissance féminine.
Allô! Aujourd'hui, je suis full contente. Parce que, tu sais, le monde que tu vois sur Instagram, t'es genre « Ah non, mais elle, je l'aime trop! » ou « Lui, je l'aime trop! » Ben là, moi, aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'aime vraiment, qu'à chaque fois que je vois ses posts, je suis comme « Ah, ça me parle trop! » Puis, je suis full honorée de l'avoir avec moi. C'est Valérie que tu peux retrouver sous Maman Sacrée sur Instagram. Bonjour! Merci d'être venue!
Allô Mélodie! Merci pour ton invitation. Je suis vraiment contente. Ça arrive à point puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir être là.
Merci! Tu peux peut-être te présenter un peu plus, mais je sais que tu es une mentoresse. Oui! Tu as deux bébés, tu es une maman et... T'es une femme divine, clairement, mais oui, c'est ça, tu sais, je sais que t'offres plein de services, là, récemment, t'as réouvert ton Rebirth.
Écoute, si je peux faire un petit résumé de ma personne, sans trop aller en long et en large, parce que ça pourrait être long, j'ai tellement de choses à raconter, mais... Pour rester vraiment focus sur l'intention de ton podcast puis sur ton invitation, ben tu sais, moi, ça fait une décennie, un peu plus maintenant, que je travaille auprès des femmes. J'étais en santé avant, en soins infirmiers. J'ai travaillé en clinique de fertilité et de procréation assistée, de périnatalité, obstétrique, etc. Ça a toujours été un milieu qui m'interpellait. En fait, c'est pas le milieu qui m'interpellait, c'est surtout la femme enceinte, le mystère... de la vie, comment on arrive sur Terre. J'ai toujours été très, très, très intéressée par ça, très jeune. Je me rappelle, ma mère me disait que je courais les poussettes quand j'étais jeune, tu sais, à 2 ans, que je voulais tout le temps mettre mes mains sur le ventre des mamans. J'étais très fascinée par ça, tu sais. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui ont de l'intérêt sur les bébés puis les mamans, mais... J'avais une fascination, je te dirais, qui tu sais, en tout cas, qui pouvait aller dans le domaine de la passion, là, tu sais, c'était genre, je me questionnais sur comment est-ce qu'on arrivait dans le ventre, mais OK, là, je comprenais l'aspect physiologique de tout ça, mais après ça, j'étais comme, il doit y avoir quelque chose de plus grand, fait que, tu sais, il y a tout l'aspect spirituel aussi, la spiritualité qui m'a beaucoup... ma lumière vient de s'éteindre, c'est pas grave. C'est drôle, on parle, puis pouf, l'aspect spirituel, tout la lumière
ouais,
ferme.
La lumière, c'est pas normal.
C'est quand même drôle. J'aime ça. Mais ça arrivait au moment où je parle de spiritualité, mais pour dire que tout cet aspect mysticisme, mystérieux de la femme enceinte, de la vie, la création de la vie, tout ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, c'est ça qui a teinté mon parcours professionnel surtout parce que j'étais comme à la recherche d'une vérité, à la recherche de chemin qui allait m'amener vers je ne sais quoi, mais tu sais, vers cette question qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi, tu sais, qu'est-ce qu'on est venu faire, comment on arrive, qu'est-ce qui se passe avant ça, qu'est-ce qui se passe après, tu sais, c'est toutes des grandes questions. Je pense que je suis pas la seule à me poser ces questions-là, mais ça m'a amené vraiment à vouloir me rapprocher de la vie. Puis pour moi, c'était ma façon à moi de le faire. Donc, par contre, j'ai eu un parcours très personnel qui m'a amené à shifter beaucoup ma direction professionnelle. J'ai eu 2 accidents de la route. Donc, ces 2 accidents de la route-là m'ont fait arrêter sur mon chemin en soins pour me questionner sur ce que je voulais dans ma vie, comment je le voulais, au service de quoi je voulais être. j'ai réalisé que j'étais pas heureuse où j'étais, que moi, puis pas mal beaucoup d'entre nous réalisent ça aussi, que le 9 à 5, l'espèce de sentiment d'être esclave, c'est pas juste un sentiment, mais c'est, si je veux dire, c'est ça. En tout cas, on n'ira peut-être pas là aujourd'hui, mais tout ça pour dire que ça l'a comme vraiment, ça l'a vraiment brassé des choses, ces deux accidents de la route là, et donc ça fait que j'ai décidé de laisser mon métier. Puis mon père, le premier, était ultra stressé, comprenait pas pourquoi je faisais ce choix-là. Ça, c'est avant que Instagram
J'en ai
n'ait pété.
un
Ah oui, c'est ça.
même.
Mais ma mère était super à mon chevet, puis elle était comme, écoute, ton cœur, j'ai mes peurs, mais ça m'appartient, puis tu sais, comme je veux que tu suives ta voie, puis écoute ton chemin, puis ça va bien aller. Fait que, tu sais, ma mère m'a toujours entretenu cette connexion-là avec mon intuition, puis le monde spirituel. Donc, tu sais, j'avais ces deux parties-là, là, comme à l'intérieur de moi, en dualité, là, genre ma mère me dit, go, mon père a super, tu sais, comme dans le jugement, puis il comprend pas mon choix. Fait que ça s'est internalisé, puis j'ai travaillé sur ces petites voix-là intérieures qui s'opposent tout le temps. Mais tout ça pour te dire que finalement, j'ai décidé d'aller faire mon cours comme professeur de yoga prénatal, postnatal, ainsi que professeur de yoga Hatha yoga. Mais à travers tout ça, j'ai tellement tombé en amour sur l'approche holistique de tout ça que j'ai décidé de devenir doula. Donc, je suis devenue doula, ça fait déjà 8 ans, 9 ans, à peu près 8 ans, ouais. Donc, c'est tout ça qui m'a amenée à prendre de bifurquer vers le monde plus holistique de la maternité. Et j'ai accompagné beaucoup de femmes. Puis c'est vraiment suite à un avortement très significatif que j'ai décidé de lancer mon entreprise, Maman Sacrée, qui m'a vraiment amenée à transmettre, être au service de la femme. Puis moi, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que j'aimais bien le métier de doula. Mais j'avais l'impression de travailler comme un peu à l'envers, dans le sens que ça, c'est vraiment mon parcours à moi puis ma vérité, hein. Je dis pas que les doulas sont pas nécessaires, c'est tellement nécessaire, je trouve que ça a tellement sa place en ce moment et beaucoup plus encore maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ma part, j'avais vraiment besoin de sentir que je travaillais en amont. Tu sais, parce que quand j'accompagnais les femmes, je sais pas pour toi, mais pour moi, j'avais l'impression qu'elles étaient tellement confrontées à comme une vague d'émotions, puis de réflexions, puis de peurs, puis de croyances, puis de ménage à faire au moment de la grossesse. Je me disais, mais ça se peut pas, tu sais, il faut qu'on travaille ça avant d'accueillir la vie. Tu sais, il y a vraiment un processus qui doit se faire avant ça. Fait que moi, ce que j'avais envie, ben, c'était de sensibiliser les femmes ou permettre aux femmes de faire un deuil ou de se réconcilier avec leur ancienne grossesse, par exemple, enfantement, etc. Mais aussi, surtout, d'accompagner les femmes avant qu'elles deviennent mères, avant qu'elles affrontent, entre guillemets, l'expérience de la maternité. Donc, moi, je me disais, il faut que je travaille en amont pour sentir que j'ai vraiment, tu sais, que je fais pas juste comme ramasser un peu les dégâts, entre guillemets, là. Je sais que ça a l'air gros, qu'est-ce que je dis là, mais je sentais, pour moi, j'avais pas ma place à cet endroit-là. Puis, c'est ça qui a fait que Maman Sacrée est née, tu sais, suite à un avortement. Ben là, j'étais comme, OK, non, là, je peux plus repousser ça. Je me lance, j'y vais, j'ai commencé à offrir des rituels, des cercles de femmes, des rituels de femmes sur le cycle menstruel, sur la libération de sa lignée de femmes, etc. Puis c'est là que ça a vraiment explosé, Maman Sacrée. J'ai rencontré des femmes tous les mois dans mes rituels avant que la pandémie arrive. J'avais des 50 femmes dans mes ateliers, dans mes cercles. J'en revenais pas, tu sais, à quel point c'était comme nécessaire. Puis finalement, je sentais vraiment que j'avais répondu à cet appel-là intérieur, mais que ça répondait aussi à un besoin que les femmes avaient. Puis c'est vraiment comme ça que Maman Sacrée a commencé. Fait que je sens que Maman Sacrée, c'est comme mon premier bébé parce que je suis maman de deux enfants, mais Maman Sacrée, c'est comme mon premier, tu sais. Pour moi, c'est la transformation de cet avortement-là en quelque chose qui est au service du collectif, qui est au service de la communauté, des femmes et des familles. Ouais.
C'est magnifique. Puis j'aime ça aussi que tu aies fait tout ce cheminement-là un peu. T'as eu ton avortement, mais d'habitude, ce cheminement-là, de ce que j'entends, c'est souvent, tu sais, après avoir eu un, deux, trois bébés, tu sais, la maternité nous change, nous amène vraiment dans d'autres choses.
Ouais.
Puis, tu sais, j'entends que ça fait longtemps justement que t'es dans le volet spirituel, puis dans la recherche de la vérité un petit peu du sacré, du mystique derrière tout ça.
Oui, ben t'as mis le doigt dessus, c'est vraiment ça, tu sais. J'ai réalisé dans les dernières années que moi, mon unique rôle là-dedans, c'est que je suis à la recherche de vérité. Puis je me sens émotive quand je dis ça, parce que tu sais, je suis comme à l'aube de ça en ce moment. J'ai ouvert un nouveau chapitre, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais ouais, c'est ça, c'est que pour moi, le féminin a été occulté. Puis on le réalise avec le patriarcat, mais il y a quelque chose qui me dérange d'en nommer juste le patriarcat, parce qu'on l'associe énormément au masculin, à l'homme. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est que j'ai l'impression que l'homme a été un outil là-dedans, dans quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Je trouve que l'Église et l'État ont joué un rôle important dans l'occultation du féminin. Et on le voit aussi par des inquisitions qui se sont passées depuis très longtemps. Donc, tout ça, en ce moment, m'amène à réaliser que oui, dans le fond, moi, ce que je recherche, c'est des vérités, tu sais. Puis, je me mets en avant-chemin pour tracer, puis découvrir ce qui a besoin d'être mis en lumière, tu sais, finalement. Ouais.
Ouais, j'ai des frissons, puis moi aussi... Je suis devenue émotive parce que je peux tellement relate à ce que tu dis. Tu sais, je me définis un peu comme une chercheuse de vérité. Puis dans les dernières années, j'ai vraiment été, tu sais, j'ai compris vraiment le lien direct. Là. C'est pas un lien qu'on peut faire à peu près. Le lien direct entre, tu sais, la chasse des sorcières puis la médecine. Tu sais, c'est le même point de départ. Là. Tu sais, c'est tellement ensemble, tu sais, toutes les injustices qui ont été faites aux femmes, puis
oui.
ça part tout de tu sais, justement, de notre maternité, de notre puissance féminine. On essaie de tout le temps un peu renfermer,
oui.
Puis le fait de, tu sais, d'en prendre conscience, justement, c'est tellement fort, et il faut le partager, tu sais, il faut vraiment... Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, dans mes accompagnements. Je suis encore... je le fais pas avant la maternité, mais tu sais, pendant mon accompagement, doula est vraiment différente. Tu sais, je fais pas de cours prénataux. Je veux vraiment aller dans la... Justement, ben, tu sais, toi, est-ce que tu as confiance en tant que femme, en qui t'es, en ton intuition, mais aussi, tu sais, essayer d'aller déconstruire les croyances qu'on nous a tellement inculquées. Tu sais, c'est rendu tellement... évident, ben, que, tu sais, genre, ben, je vais avoir ben trop mal,
mm-hmm.
Tu sais, je serais pas capable. Oui.
Ouais.
Tu sais, justement, ouais. Hier, j'ai fait un post sur une femme en tribu en Guinée, d'Amérique du Sud, tu sais, qui accouche en 2 minutes. Puis, tu sais, j'avais des commentaires, genre, ben, voyons, c'est un peu exagéré. Ben, non. Tu sais, c'est vraiment comme ça qu'on est supposé d'accoucher. Ouais.
Mais il n'y a plus de transmission, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a tout oublié, puis on a tellement été modelé dans une manière de penser, puis de voir des choses, puis ça prend pas de temps, hein, 3 générations, puis on est dans l'oubli total. Fait que si on a perdu aussi cette valeur-là de transmission, juste dans nos familles, ben on est en train de se faire déraciner complètement, tu sais, fait que c'est sûr qu'on a oublié, tu sais. Puis par contre, quand je sais pas pour toi si ça fait ça, mais quand tu rencontres les femmes, puis les couples, les partenaires ensemble, puis tu leur rappelles l'évidence que depuis que le monde est monde, les femmes enfantent, puis que, tu sais, quand tu remets tout ça en place, c'est comme, ça devient une évidence pour eux aussi. Ils sont comme, mais voyons, c'est vrai, t'as totalement raison.
Tellement.
C'est comme si tu viens d'enlever le voile hypnotique, là, tu sais, qu'on a mis en place, parce que c'est une propagande, hein? C'est une grande propagande. Moi, j'ai été outrée sur mon chemin, là, tu sais, de femme, de mère, de professionnelle. à certains moments, j'en revenais pas des mensonges qu'on nous dit puis qu'on nous pousse dans la gorge, là, tu sais. Puis je me sens vraiment à l'aise d'en parler comme ça aujourd'hui parce que j'ai des appuis solides autour de moi, que ce soit des références, des livres, des gens que j'ai rencontrés, des professionnels, des sommités au Québec. Même ailleurs, il y a tellement de gens qui ouvrent leur voix en ce moment, tu sais, puis c'est comme, ça devient trop une évidence pour pas regarder puis pas... Tu sais, moi, j'ai confiance en l'humanité. Je pense que les gens sont fondamentalement, comment je peux dire ça, allumés. C'est juste qu'on a besoin d'avoir des fois des petits claquements de doigts pour raviver tout ça.
Ouais.
Mais ce que je voulais dire par là, tu sais, juste l'histoire de « on a tellement peur de l'enfantement », ben moi, à un moment donné, j'ai lu un livre qui est l'histoire de la maternité au Québec qui m'a complètement fait capoter. Puis j'ai réalisé que, tu sais, on a tellement peur de mourir de l'enfantement. C'est tellement ancré dans nous. Puis si je parle juste au Québec, par exemple, c'est quelque chose qui, quand tu vas chercher plus loin avec les couples ou la femme qui va enfanter, tu réalises que sa peur, tu sais, c'est vraiment la mort, là, finalement, quand c'est pourtant la vie, c'est tellement paradoxal, tu sais. Mais pourquoi? Mais quand tu regardes ça, tu te dis, ben OK, ça vient avec beaucoup le moment où l'Église catholique était très en place au Québec. Par exemple, si je prends juste le Québec, là, tu sais, je veux pas nécessairement limiter les autres qui pourraient nous écouter, mais moi, c'est mon expérience, puis ce que je sais, fait que c'est pour ça que je le partage comme ça. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, ben c'est surtout quand l'Église catholique était très, très présente dans, je me rappelle plus quelle année, mais tu sais, c'est comme il y a deux, trois générations de ça, là, comme plutôt mon arrière-grand-mère,
ouais.
Dans ces moments-là, où est-ce que ben le prêtre, il forçait le couple à avoir plusieurs enfants, il venait même cogner à la porte des maisons pour s'assurer que ça se perpétuait, cette affaire-là. Mais les femmes étaient, tu sais, premièrement, le Québec était pauvre, là, les gens n'étaient pas si aisés que ça, donc il manquait beaucoup une alimentation saine, par exemple. Donc, les femmes enfantaient à répétition, elles étaient vraiment sous-alimentées,
ouais.
Et donc, en plus de ça, ben ceux qui venaient comme pour accoucher les femmes quand ça allait pas bien, c'était les bouchers en premier, tu sais, parce que c'est eux qui avaient les outils pour pouvoir, par exemple, faire une césarienne, entre guillemets, là, pas comme on la connaît dans les hôpitaux. Alors, quand tu regardes ça, tu te dis, ben là, tu sais, regardons les faits, tu sais, la femme, elle a enfanté 9 fois, elle mange juste des patates, puis elle est complètement rachitique, puis, tu sais, on n'a pas le support pour l'amener dans son plein potentiel.
Alors, et salubrité.
La salubrité, etc. Toutes les ressources, limite, on pourrait faire une liste très longue, la dérouler, ça serait pas fini. Mais tout ça pour dire que c'est d'une évidence que probablement que les femmes mourraient, tu sais, parce que justement, il n'y avait pas ce qu'il fallait autour pour pouvoir supporter cette maternité-là. Mais ouais. C'est pas la naissance puis le processus d'enfantement en soi qui peut nous amener à la mort, tu sais. Fait que quand on commence à voir ça, puis tu sais, on voit ça dans les films aussi, là, la femme elle gueule quand elle accouche, puis elle est dans une position complètement pas optimale, puis tu sais, tu regardes ça, t'es comme, ok, ouais, tu sais, c'est sûr que ces éléments-là, c'est une grosse propagande, puis on nous montre qu'est-ce que ça, tu sais, on nous suggère ce que ça devrait être, puis on y croit, on le prend comme une vérité.
Ouais.
Mais moi, ça n'a pas été mon expérience, tu sais. Puis, si j'avais pas passé à travers toutes ces formations-là, je pense pas que j'aurais déconstruit mes peurs, tu sais. Parce que moi, dans ma tête à moi, je voulais une césarienne quand j'étais jeune. Parce que, premièrement, je savais pas c'était quoi l'accouchement physiologique, la naissance physiologique. Mais j'avais tellement peur de la douleur, tu sais, je me rappelle très, très jeune, j'avais vraiment peur, j'ai dû déconstruire tout ça, puis c'est à travers ce processus-là où je me suis formée professionnellement, où j'ai traversé moi-même mes propres croyances puis mes propres peurs associées à l'enfantement, à la maternité, que finalement, ben mes deux enfants, tu sais, je leur ai donné naissance à la maison, puis les deux, c'était quasiment pas assisté, là, tu sais, c'est comme à la toute fin, là, tu sais. Fait que j'en reviens pas du chemin que j'ai parcouru, mais en même temps, je comprends, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, puis j'ai tout déconstruit, tu sais.
Ben pour moi, c'est le plus crucial, tu sais. s'il y avait une chose que je disais n'importe quoi pour avoir, si tu souhaites un accouchement, peu importe c'est quoi ton accouchement idéal pour toi, c'est il faut que tu déconstruises tes croyances, tu sais, il faut qu'on aille renforcer les idées qu'on nous a, il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes, tu sais, c'est ça quand on rappelle, justement, je parlais de ça avec une amie doula hier, disait, tu sais, moi, j'aime tellement l'accouchement, c'est mon dada, pour tout le monde qui me suit le sait, mais ce que j'aime le plus, je me suis vraiment concentrée sur, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait le plus là, de fierté? C'est à ma première rencontre avec la papa, le papa puis la maman. C'est comme ma rencontre magique que je l'appelle. C'est là où on établit justement des faits logiques que tu peux pas vraiment défaire. T'sais, comme tu disais tantôt, depuis que le monde est monde, on accouche. Là, tu remets en position que, dans le fond, ben on a commencé à aller accoucher dans les hôpitaux juste dans les années 40, ça veut dire à peu près depuis ta grand-mère, tu sais. Puis qu'avant ça, ben, on a toujours accouché à domicile. Puis là, tu commences sur les stats, tu sais, pour venir renforcer un peu. Puis tu pars avec l'histoire. Puis là, on part d'une maman qui voulait peut-être la péri à une maman qui est comme, c'est bon, moi, j'ai rien besoin, j'accouche naturel. Puis un papa qui est comme, une douleur. Pas besoin de ça, fini, genre, hé, hey, on a accouché à la maison, tu sais.
Oui, complètement. Vraiment,
on a comme ouvert, on a comme fait de l'espace à de la nouveauté. Il y a tellement de logique forte en arrière de ça, mais c'est il y a des choses qu'on se fait tellement répéter, même avec les films, tu sais. Je veux dire, la plupart des papas, je leur dis, qu'est-ce que tu sais d'un accouchement? C'est ce qu'ils ont vu d'un film, là. Puis certaines mamans aussi, tu sais, qui sont moins intéressées à se renseigner avant que le jour J arrive, tu sais, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Puis aussi, c'est un peu ce qui est valorisé de tu sais, la prise en charge, c'est que tu n'as pas besoin de te renseigner, en fait. On va s'occuper de ça, on sait quoi faire, il y a des professionnels pour ça, tu n'as pas besoin de t'occuper de ça. Fait que c'est souvent, on ne met pas de l'avant le fait de va te renseigner, tu sais, va...
Ouais. Mais moi, moi, je trouve ça complètement réducteur, là, mais...
C'est infantilisé.
Ouais, complètement. Ouais.
C'est beaucoup plus facile dans un certain... dans un certain ordre d'idées.
Ouais, exact.
J'aimerais ça quand même savoir si, dans ton parcours spirituel, tu sais, souvent, il y a tout le temps comme... En tout cas, au moins un, voire plusieurs... déclic, tu sais, spirituel qui fait genre, ok, non, là, il faut que je m'y mette, ou tu sais, genre, vraiment un moment dans ta vie où t'as senti le switch, genre.
Ouais, il y a eu un gros moment de bascule dans ma vie quand, justement, j'ai décidé de laisser ma carrière de côté, parce que là, j'avais tapine dans une conscience que j'avais pas touchée encore avant. Je comprenais pourquoi je me sentais pas à ma place dans ce monde. Et je voyais là où je voulais pas aller, puis tranquillement, je me faisais siphonner par là. Fait que quand j'ai décidé de laisser cette carrière-là en soins, c'était vraiment pour moi parce que j'avais l'impression d'être un esclave, tu sais. Puis ce sentiment d'esclavagisme-là, de devoir travailler, tu sais, la roue qui tourne, m'a tellement effrayée. C'est comme si je venais de me réveiller d'un endormissement profond, puis que là, tout à coup, je voyais tout, puis là, les petites choses et les grandes choses, puis ça m'a pris du temps à sortir de tout ça, tu sais. J'ai eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de peine, beaucoup de colère, beaucoup d'injustice pour me demander, tu sais, comment ça se fait qu'on vit dans le monde dans lequel on vit, puis...
Ouais.
Bon, fait que là, c'est sûr que là, personnellement, c'était ça, mais après, comme femme... mon processus aussi, tu sais, moi, j'ai eu des règles très douloureuses longtemps, j'ai réalisé que j'avais finalement des ovaires polykystiques. Fait que tout ça, dans mon processus, m'a amené à m'interroger sur mon corps, sur comment prendre soin de mon corps, sur... Vu que j'avais accès à des médecins et tout, je posais des questions. On arrivait souvent à un cul-de-sac, tu sais, il y a tellement pas grand-chose, finalement, qui existe quand tu regardes, tu sais, l'ensemble de choses qui existent pour l'humanité au niveau médical, mais pour la femme, il n'y a tellement pas grand-chose de disponible encore. Fait que j'arrivais tout le temps à des... ben des cul-de-sac, comme j'aime le dire, là, tu sais, c'est comme, OK, bon, ben, OK, je vais retourner de l'autre bord, je vais essayer de trouver une réponse par là, puis, ah, non, finalement, j'arrive pas à quelque chose, je retourne de l'autre côté, puis à un moment donné, je suis tombée sur le livre de Miranda Gray, La Lune Rouge. Je sais pas si tu connais ce livre-là.
Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler.
Ben, elle, pour moi, c'est une pionnière en termes de vulgariser puis de rendre accessible ces savoirs-là concernant le cycle menstruel d'un aspect plus sacré, en connexion avec la nature, avec la lune, etc. Puis quand je suis tombée là-dessus, ça a agi sur moi comme, premièrement, une profonde vérité, mais deuxièmement, comme une permission que je pouvais croire que ben j'étais beaucoup plus que juste comme une fonction physiologique, procréatrice et sexuelle, tu sais. Parce que moi, je me voyais un peu comme ça à travers mon cycle menstruel. Puis il y a beaucoup de femmes, j'ai réalisé qu'elles se voyaient comme ça aussi. Donc moi, c'est vraiment ce parcours-là, puis le livre qui m'a fait vraiment, qui a ouvert une porte énorme de possibilités, de potentialités sur comment je peux me voir, l'accord que je me donne sur cette vision-là, ainsi que ce que j'ai envie d'en faire aussi au service des femmes. Donc ça, c'est deux moments très importants pour moi qui ont vraiment teinté mon parcours. Puis après, c'est mes deux expériences de maternité qui ont vraiment ajouté de l'huile sur le feu, je te dirais. Et là, c'est tout dernièrement avec mon expérience en entreprise avec ma boutique Pignon sur rue. J'ai eu un autre éveil, un gros tremblement de terre, je te dirais. Ouais.
C'est fou, j'adore ça, tes histoires. Et dans tes grossesses, si je peux y revenir, tes grossesses, tes accouchements, est-ce que tu l'as vécu comme une expérience spirituelle? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager, plus au niveau des ressentis, peut-être dans l'accouchement plus spécifique? Ouais.
Ben, ma première, qui est ma fille, qui a 5 ans et demi maintenant, premièrement, j'avais ce souhait de donner naissance à la maison. C'était vraiment important pour moi, pour tout ce dont on a parlé tout à l'heure et plus encore. Heureusement, j'ai réussi à le faire. Ça n'a pas été de tout repos quand même. Ça a duré comme un 48 heures. Pour plusieurs raisons. Je sais pourquoi. J'ai été sortie de ma bulle à plusieurs reprises. J'ai dû refaire ce travail-là. Il y a aussi tout le cheminement, l'histoire de conception, puis de relation avec le père de ma fille qui m'amenait à pas me sentir pleinement en sécurité dans l'expérience. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui ont fait que ça a tardé, puis je le sais que c'est pour ça. C'est une vérité pour moi, là, c'est clair, mais au début, c'est sûr que ça m'a ébranlé un petit peu. Mais j'ai réussi à lui donner naissance à la maison. Et ça a été pour moi, j'ai réalisé en fait comment le moment où je me suis sentie pleinement en sécurité, j'ai décidé d'aller dans la douche, puis c'est vraiment l'élément de l'eau pour moi qui agit comme un vecteur puissance 1000, là, tu sais, c'est comme... L'eau est un élément vraiment important pour moi, tu sais, quand j'ai besoin de temps pour moi, je m'en vais au spa... Puis là, j'ai réalisé à quel point c'était vraiment un élément qui devait être près de moi dans ces moments de vulnérabilité. Parce que la fois où j'ai décidé d'aller dans la douche, là, puis j'ai commencé à faire des sons, tu sais, c'était vraiment mon feeling. Genre la douche chaude, des sons, puis j'étais quasiment en squat dans la douche finalement parce que le bain, ça marchait pas. J'avais besoin d'être en mouvement, tu sais, j'avais besoin de sentir que je bougeais, ma mobilité était importante. Donc, le bain, j'étais pas rendue au stade où c'était comme, fallait que je me couche puis j'arrête de bouger. J'étais pas prête et j'étais pas bien de faire ça. Donc, ça a été quand même un moment important pour moi qui me fait réaliser que, tu sais, ma voix intérieure était tellement importante à honorer. Puis, quand j'ai commencé à faire ces sons-là, puis je me suis laissée porter par mes feelings à moi plutôt que plein de petites choses à gauche, à droite qui pouvaient perturber un peu mon expérience, j'ai senti le kick d'hormones, le cocktail au complet qui a rentré au pas. Ça agit comme un analgésique, comme un antidouleur instantané. Puis moi, j'étais comme plus de ce monde dans le sens que j'avais plus la même perception de la réalité. T'sais, oui, j'étais encore là, je pouvais prendre des décisions dans la 3D, là, j'étais pas passante, là, t'sais, j'avais pas comme tombé sans connaissance, mais j'avais plus la même perception de la réalité. Et puis les contractions agissaient plus de la même manière sur mon corps et la douleur était transformée en autre chose. T'sais. C'était plutôt comme une force de vie qui me poussait vers quelque chose puis que je pouvais pas nécessairement repousser ou reculer. T'sais. Fait que là, l'idée, c'était, au lieu de le voir comme une douleur, toutes les hormones, tout ça m'amenait à le voir comme une force dans laquelle je dois m'installer moi aussi, comme si je donnais naissance à moi-même. Alors, je me laissais embarquer dans chacune des contractions. Puis, c'est là où, à un moment donné, la sage-femme est arrivée. Puis, je suis sortie de la douche. Puis, mon ex-conjoint, à ce moment-là, le père de ma fille, lui a répondu, « Je sais pas si le travail est arrêté ou si c'est une bonne nouvelle. » Tellement que, tu sais, je n'étais plus du tout la même personne en rentrant et en sortant de la douche avec les sons que j'avais fait. Je suis sortie avec la robe de chambre, avec la capuce sur la tête. J'avais comme besoin de pas avoir de stimuli, rien du tout. Puis finalement, je suis allée dans le lit, puis là, j'ai accepté de me faire examiner pour voir j'en étais où, parce que ça faisait quand même longtemps que, tu sais, j'étais comme si on est encore à 4. Il va falloir que je prenne une décision parce que l'énergie commence à manquer, tu sais. Mais finalement... j'étais rendue comme à 8, là, tu sais, puis j'avais pas encore percé mes os, mais je sentais, j'étais tellement ultra sensible, hyper sensible de tout, que je sentais quand elle mettait ses doigts sur la poche, tu sais, ça faisait comme « couic, couic, couic », là, j'ai dit « ah », j'ai dit « je le sens, tu sais, tu touches », puis là, j'étais comme tellement, tellement, genre, dans une béatitude, là, c'était incroyable, cette expérience-là. Par contre, ma première expérience de pardon, ma première expérience de maternité m'a vraiment happée dans des profondeurs de moi où j'ai comme été un peu en dépression postnatale, où j'ai dû vraiment travailler beaucoup de choses qui étaient latentes puis qui venaient d'émerger. J'ai touché à des souffrances, j'ai touché à la solitude, ce que j'ai pas vécu à mon deuxième par contre. Donc c'est moins comme « ouh » dans l'extase. Mais j'ai connecté pour la première fois à la force de vie, puis à mon plein potentiel quand je m'écoutais moi, puis j'ai vu que ça avait un impact positif par la suite. T'sais, tout ça m'a donné confiance en moi, m'a donné confiance pour la suite des choses. T'sais. Puis ça a été une expérience très spirituelle pour moi parce que ça teinte aussi la personne que je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est une expérience comme on n'en vivra pas 10 millions dans une vie. T'sais. On a une chance inné, là, les femmes, de pouvoir toucher à la création comme ça, de si près, c'est incroyable pour moi. Puis, ben, à mon deuxième, mon fils, Noé, qui a 2 ans et demi maintenant, ça a été une autre expérience totale. Je pense que ça pourrait durer 45 minutes, mon témoignage autour de ça, tellement que ça a été... C'était comme un autre monde, tu sais, un autre monde du début à la fin... des signes, des synchronicités, des symboles, des confirmations de bonnes, tu sais, de bonnes réponses. Puis si j'avais pas eu mon expérience avec ma fille, j'aurais pas pu être aussi solide avec mon fils parce que ça s'est passé en pleine pandémie où il empêchait le conjoint de faire plein d'affaires. J'ai dû revendiquer ma place puis la place de mon partenaire. Puis si j'avais pas eu cette expérience-là avec ma fille, j'aurais pas été aussi solide non plus. Si j'avais pas eu tout mon parcours professionnel, j'aurais pas été aussi solide dans cette expérience-là. Et je pensais à toutes les femmes qui commençaient leur parcours avec la maternité en pleine pandémie. Je peux pas imaginer à quel point ça devait être déstabilisant pour tout le monde. Déjà que moi, je l'ai vécu, j'étais comme, j'imagine pas, tu sais, ceux qui commencent là avec leur expérience de maternité.
Tellement.
C'est comme le début pour elles de toutes les réflexions, etc. Ils connaissent pas vraiment leurs droits. Puis en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a eu tellement, tellement d'affaires, je te dirais, qui sortent un peu de la 3D, qui m'ont vraiment... écoute, mon canal était ouvert, là, tu sais, ouvert de chez ouvert, là, j'en revenais pas, puis mon conjoint était tellement là, tu sais, à ce moment-là, on avait des feelings ensemble, des intuitions. Lui aussi m'arrivait avec des choses, puis on prenait action. On écoutait vraiment Puis on se rappelait en fait mutuellement que notre fils nous avait choisi, qu'on était gardien et porte-parole de sa vie. Donc on avait le devoir de s'assurer de son de sa pas de, la, de sa légitimité, mais de sa dignité en tant qu'être humain qui ne peut pas prendre parole sur sa propre vie pour l'instant, tu sais. Donc, tous les feelings qu'on avait, toutes les intuitions, les sentiments pour nous étaient nommés, que ce soit aux professionnels, même si on avait l'air des fois un peu débile, on le faisait, tu sais. Par exemple, au moment de l'échographie, parce que moi, j'ai accouché, j'ai donné naissance à mon fils à 42,2 semaines, et oh mon Dieu que je me suis fait juger de tarder, tu sais, quand on sait que, premièrement, la datation, c'est tout un autre sujet, mais tu sais, c'est... Je me rappelle plus du pourcentage, peut-être que tu le 5% sais.
5% fiable.
Ouais, c'est ça. Donc, puis moi, je disais, vous êtes certaine, c'est la bonne date, parce que moi, quand je regarde, tu sais, moi, ça fait des années que je suis mon cycle maintenant, là. Puis je me connais, puis j'ai eu deux autres grossesses avant, ben, incluant celle-là. Je sais que des fois, là, je peux être enceinte, puis je peux avoir un mois de menstruation, puis ensuite, ça arrête, mais le mois d'avant, j'étais enceinte. Fait que c'est comme, tu sais, je connais mon corps, écoutez-moi. Oui. Puis moi, pour moi, c'était comme s'il y avait comme 3 semaines au moins qui étaient trop d'avance. Puis j'étais comme, non, vous vous êtes trompée, c'est sûr. Fait que tout ça, ça l'a teinté le reste de mon parcours parce que là, pensant que mon fils était beaucoup plus âgé que ce que eux, tu sais, que ce que moi, je pensais, il prenait action dans ce sens-là. Puis on était comme, ben non, c'est pas. Moi, je suis convaincue que. Puis dans tous les cas, il va bien. On a regardé avec l'échographie. J'avais besoin de me faire rassurer quand même. À un certain degré, je prenais une part de responsabilité pour m'assurer que je faisais quand même les bonnes choses. Puis là, on nous faisait sentir tellement mal. Mais chaque fois qu'on se connectait à notre vérité profonde, à notre intuition, on se disait, ben non, mais ça, c'est pas ça. C'est pas notre feeling. C'est pas notre vérité. C'est pas... le livre qu'on a acheté là, pour vivre cette, tu sais, c'est pas notre histoire, là, tu sais. Puis à l'hôpital, justement, mon conjoint, tu sais, il disait, oh, on est inquiet, on le sent pas bouger, etc. Mais il me donnait tout le temps rendez-vous à la même heure. Puis là, nous, on leur disait, ben, il bouge pas à cette heure-là, jamais, depuis, tu sais, depuis qu'on le sent bouger. C'est toujours le soir entre, je sais pas, moi, 8h et 10h, par exemple, tu sais. Fait que là, c'est comme si tu nous donnais un rendez-vous à cette heure-là, tu verrais bien qu'il fait les Olympiques, là, tu comprends? Mais qu'avant ça, il dort, il fait d'autres choses, tu sais, c'est comme pas son cycle à lui. Puis là, il nous regardait comme, donc ben bizarre, c'est donc ben bizarre. Fait que là, nous, on était comme, ok, ouais, on est tellement pas inquiet parce que je le sens bouger tous les soirs, mais que le jour ou en début d'après-midi, il est vraiment relax, tu sais. Puis on était outrés quand même de pas se faire entendre, tu sais, de pas se faire écouter. Dans notre rôle de parent, tu sais, de se faire sentir réduit, infantilisé, quand c'est nous qui l'avons conçu, cet enfant-là, qu'on a décidé dans notre propre chambre à coucher, entre guillemets, peu importe où ça s'est passé, ben, de le faire, cet enfant-là, tu sais, puis qu'au final, ben, on est parents pour la vie avec eux, puis c'est comme, à qui de droit tu peux nommer ça comme ça, puis m'ignorer dans mes propos, tu sais.
Fait que il nous, est dans ton corps, là.
T'sais, oui, c'est ça, je le sens. Je le sens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, genre depuis X nombre de temps, tu sais. Fait comme, pouvez-vous m'écouter un petit peu, tu sais? Je pense que ma parole vaut quelque chose, tu sais. Je pense pas qu'elle vaut rien, puis que vous, tous vos paramètres vaut plus que qu'est-ce que moi je peux ressentir. Posez-moi des questions, je vais vous répondre, tu sais.
Ouais.
Fait que ça revient aussi au fait que toutes les choses sont très externalisées puis qu'on remet un peu notre personne entre les mains de d'autres puis on a été habitués comme ça, mais tu sais, le personnel, je veux pas nécessairement démoniser ces gens-là, tu sais, je pense qu'ils sont juste habitués d'une manière de faire, mais bref, tout ça pour dire que ça m'a consolidée dans ma foi, dans ma souveraineté. Pour moi, c'est très spirituel comme parcours, tu sais, de voir... consolider, solidifier ces éléments-là à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous comme couple aussi, tu sais, ça nous a amené à un autre niveau de compréhension puis de communication. Puis jusqu'au moment où le week-end où mon fils est né, finalement, il est né à Pâques, le vendredi, c'est un dimanche le 4 avril, mais le vendredi, les contractions ont commencé. Et finalement, je pensais que ça y était, tu sais. Puis tout ce qui arrivait, c'était un paquet de peurs. Tout ce dont les contractions, ben, c'est comme si les contractions faisaient monter à la surface là, tout ce que j'avais en latence pendant ma grossesse, que je nommais à gauche, à droite, mais c'était comme si ça voulait le tasser du chemin pour vrai, tu
Ouais.
sais. Et donc là, je sentais qu'il fallait que je le nomme, puis j'avais pas d'autre choix que d'en parler pleinement, ouvertement, ce que j'avais déjà fait avec mon conjoint, mais là, c'était comme un autre niveau. Puis on s'est accompagné toute la nuit comme ça, puis il m'aidait, mon conjoint, à casser à pousser les portes, tu sais, puis à tasser ça du chemin, puis à rassurer. Puis les contractions ont arrêté finalement. Mais ça a été un travail vraiment pertinent et nécessaire. Puis ça a fait partie de mon enfantement. Puis ça a fait partie de notre histoire d'accouchement.
Ouais.
Le processus avait déjà commencé, tu sais. Puis oui, les contractions ont arrêté. On est parti à la maison de naissance parce qu'on était à quelques heures de faire shifter notre dossier à l'hôpital. Et là, la pression commençait à monter. Puis finalement, je suis allée prendre un petit cocktail de plantes. J'ai monté des escaliers, descendu, tire-lait, tout le kit pour essayer de sortir le bébé de manière naturelle. Puis en dedans de moi, ça me disait non, mais je l'avais fait parce que j'attendais quelque chose de mon conjoint. Puis c'est ça que j'ai réalisé. Parce que moi, j'aurais attendu à la maison. Mais je le sentais qu'il était in and out dans l'enfantement à la maison, plus libre, mettons. Puis moi, je voulais respecter son sentiment d'insécurité aussi. T'sais, si j'embarque dans quelque chose d'aussi fort, aussi important, qui est une co-création, on s'entend, je dois l'honorer aussi lui et respecter ses limites. T'sais. Donc, ben la magie a quand même opéré parce que finalement, il n'y a rien qui s'est passé. On est reparti en auto pour retourner à la maison. Je lui ai dit, c'est pas mon livre, ça. C'est pas vrai que je vais l'accoucher à l'hôpital, provoquée, induite. Genre, je peux pas croire à ça. Mon fils va bien. J'en reviens pas, tu sais, comme moi, là où je me vois, c'est de donner naissance à mon fils à la maison, puis c'est ça que je veux qu'il se passe, tu sais. Puis mon conjoint est un peu hésitant, mais toujours là, hein, il a toujours été willing, il a toujours dit oui à chaque fois, mais ça prenait il était un peu plus en arrière de moi, mais il faut se rappeler, lui, avant moi, il avait pas du tout touché à tous ces sujets-là, tu sais, comme entre moi, puis sa vie avant, c'est tout un univers, là, tu sais, fait que là, c'est comme,
C'est un gros chemin.
faut quand même qu'il soit solide dans la vie, tu sais, c'est quand même, il est très courageux, là, tu sais, pour te dire, là, il s'est abandonné à fond quand même rapidement, tu sais, ça a l'air de trotter un peu de la patte, mais moi, je le vois pas comme ça, tu sais, comme je peux comprendre, tu sais, que ça demande de la force puis du torque, là, tu sais, pour aller dans cette direction-là. Finalement, il a appelé son meilleur ami et on s'est fait un FaceTime, puis là, je lui disais à quel point, tu sais, moi, je me voyais dans ce sens-là, puis que finalement, il a fait tout un speech à mon chum qui a été l'élément déclencheur là, de comme, OK, là, on enfante à la maison. Il a dit, écoute, rappelle-toi que tu me disais que ton fils t'a pas choisi pour rien puis que tu le représentes, t'sais. Penses-tu vraiment qu'il vous fait pas confiance, t'sais, pour déposer sa vie comme ça entre vos mains? Fait qu'écoute ton feeling, t'sais, comme vous êtes amplement outillé pour vivre ce que vous avez à vivre, puis il a juste rappelé ça, puis mon conjoint, il a juste fait. Il a parti à pleurer, puis il a dit, OK, Val, on fait ça à la maison. Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis là, j'ai dit, la seule chose qui me manque, c'est un tissu de suspension, parce que je le sais que ça m'avait fait du bien à ma fille, puis que c'était comme un must pour moi pour me sentir pleinement dans mon expérience. Puis il a fait un trou avec sa drille, puis il a mis l'anneau, il a tout installé. Puis là,
Ah ouais.
on est allé chercher un repas. On était comme, OK, c'est notre dernier repas, entre guillemets. Tu sais, on a comme tout mis en place pour qu'on accueille cette expérience-là à la maison. Puis là, j'ai dit, repose-toi, tu sais, parce que ça se peut que ça arrive dans la nuit, tu sais, vu que je suis vraiment plus détendue, moins agitée de la journée qui s'est passée, etc. Finalement, il a eu de la misère à s'endormir, etc. Puis là, à un moment donné, au bout d'une heure qu'il s'était endormi, je l'ai réveillé, puis j'ai dit, j'ai perdu mes os. T'sais, je me suis réveillée parce que c'était toute mouillée entre mes jambes. Là, l'espèce d'extase, là, de comme, oh my God, OK, oui, on a dit oui à notre histoire, t'sais, puis là, on est en train de le vivre, genre, fuck tout le monde, t'sais, excuse-moi le mot, mais c'était comme, hey, là, le sentiment d'empuissancement que tu as, là, à ce moment-là, c'est comme, the sky's the limit, là, t'sais. Puis,
Ouais.
Là, j'ai dit, regarde, ça va super bien, continue de dormir. Moi, je vais faire mes affaires. J'ai mis du reggae dans le salon, j'ai été sur le ballon. J'étais dans une transe à partir de ce moment-là. J'étais dans ma bulle, mon chum dormait, j'avais rien à avoir peur. Tu sais, c'est juste de laisser mon corps parler, de laisser mon corps vivre ce qu'il y a à vivre, puis de l'accompagner là-dedans, puis d'être là pour mon fils, puis juste de me prendre la vague. Elle est là, genre, tu sais, c'est une bonne nouvelle, c'est de bon augure, là. C'est comme tout se place, tu sais, fait que je peux juste faire confiance, tu sais, finalement. Puis,
Ouais.
c'est ça, à un moment donné, je l'ai réveillée, parce que j'ai dit que ça s'intensifiait. Mais j'avais appelé ma mère entre-temps, puis elle était comme, t'es sûre que t'es en train d'accoucher, tu sais? Elle dit, je te crois pas. Je suis comme, je te le dis. Je suis comme, je te le dis, ça va
Vas-y.
tellement bien, je me sens bien. Je suis comme, ah, oh, des fois, je prenais des petites pauses, mais elle était comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr que tu mens. T'sais, elle a eu une césarienne, elle n'a pas, tu sais, moi, je suis née par césarienne, elle n'a pas du tout la même expérience que moi, elle comprend pas, c'est complètement loin d'elle. C'est sûr que elle est fière du chemin que j'ai parcouru, mais comme, c'est complètement loin de son expérience à elle, fait qu'elle comme, comprenait pas ça. À un moment donné, j'ai réveillé mon conjoint, puis là, j'étais comme, OK, là, ça s'intensifie, je vais avoir besoin de toi. Puis tu sais, juste se rappeler qu'on est en pleine pandémie, puis qu'on n'avait pas le droit de donner naissance à la maison avec la sage-femme. Il fallait absolument que ça soit en maison de naissance. Mais là, pour moi, ça n'a aucun sens, tu sais. Fait qu'on a décidé de pas les aviser encore. Puis j'étais comme, on va les aviser à la fin, quand je sens que, tu sais, ça s'en vient vraiment, puis qu'on est vraiment sérieux là-dedans. Mais là, moi, on se rappelle que j'ai accompagné beaucoup, j'ai été témoin de beaucoup de naissances, comme j'ai eu ma fille, je me sentais vraiment en sécurité de le faire comme ça, sans d'interroger des gens à l'extérieur de moi parce que je reconnaissais aussi les signes, tu sais.
Oui.
Pour nous, c'était ça, c'était notre expérience, c'était complètement malade. À un moment donné, c'est la sage-femme qui appelle parce qu'elle est comme, je vais vous transférer le dossier, tu sais, je vais transférer votre dossier, mais elle sait pas qu'on est en train de vivre ça, tu sais. Fait que finalement, mon chum est comme, hey, c'est la sage-femme, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, regarde, on va lui dire que c'est là, puis qu'il est entre mes jambes, puis whatever happens, genre, si elle s'en vient, elle s'en vient, puis si elle vient pas, tu sais, comme, whatever, tu sais. Mais là, ils n'ont comme pas le choix parce que c'est une responsabilité, tu sais, qu'ils ont envers nous. Fait que finalement, ils sont arrivés quelques heures après, même pas, là, je sais pas, j'ai plus la notion du temps, là, parce que ça n'a pas été long, l'enfantement de mon fils. Ça a pris comme 4-5 heures, là, pas plus, maximum. Fait que ça n'a pas été long, puis j'ai plus la notion du temps. Mais juste pour te dire qu'à un moment donné, finalement, on a dit, ah, ben, je pense que ça y est. Fait que là, il était comme, ben là, venez à la maison de naissance. J'étais comme, non, je peux pas bouger, je pense que c'est là. Mais tu sais, je savais que c'était pas tant là. Mais moi, je voulais plus bouger. C'était comme, c'est sûr que tu me fais
Ouais.
pas partir en char. Tu me diras ce que tu veux. Je m'en crisse. Au pire, l'ambulance viendra. Tu sais, ambulance,
Ben,
c'est comme.
avec ou sans toi, mais c'était ici.
C'est ici que ça se passe. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux? Mais moi, j'ai décidé que c'est ici que ça se passait, puis je bouge plus, tu sais. Fait que finalement, elle était comme, ben, OK, on s'en vient. Ils ont déployé toute une équipe. Ils sont restés dans le bureau. Je les voulais pas. Tu sais, j'étais comme, soyez là, mais soyez pas là. Tu sais, comme, je vais vivre mon truc. Fait que à un moment donné, quand ça s'est vraiment intensifié, on était tout près là. C'est là où j'ai eu l'expérience la plus spirituelle, mystique que j'ai jamais eue de ma vie. Tu sais, je suis dans le bain. Finalement, on était dans la douche. Finalement, je me couche. Là, je suis vraiment. J'ai besoin d'être couchée. Je pars là. Tu sais, il y a comme de l'eau chaude. Mon chum, il m'arrose. Puis il m'abrit avec une doudou là, dans le bain là. Tu sais. Puis il continue de m'arroser, mais moi je suis plus là. Puis comme t'es sûr ça va, rassure-moi, tu sais, je comprends pas comment ça t'es vraiment dans les vapes, tu sais. Puis je suis comme non, tout va bien, je te promets. Mais les hormones, tu sais, ça avait tellement kick-in là que bien plus que la première fois là. C'était comme j'étais dans une autre dimension, pour vrai. J'étais plus là, pantoute, tu sais. Je respirais, etc. Tout allait bien là, mes signes vitaux étaient A1, mais j'avais les yeux fermés. Puis j'étais complètement en train de vivre une autre expérience, comme si j'étais en train de rêver finalement, tu sais. Puis mon chum lui-même me dit, j'avais des visions comme si on était dans une autre vie, puis qu'on était en Égypte, puis que je t'arrosais comme si on l'avait déjà fait, tu sais. Il dit, moi j'ai eu ce feeling-là. Puis je dis, écoute, moi j'avais Jésus qui me tenait les genoux, puis qui disait, je suis ton fils. Je dis pas que mon fils c'est Jésus, on se comprend là, c'est juste une expérience. On va faire attention, là, c'est juste une expérience autre comme un rêve, OK?
Oui.
Jésus est là, il me tient les genoux, il dit, je suis ton fils, écoute-moi, j'ai des choses à te dire. Chaque contraction symbolise quelque chose et signifie quelque chose et je te les nomme. Puis je veux que tu prennes cette vague-là puis que tu l'internalises avec toi et que tu me dises oui quand tu es prête à le vivre. C'était comme un consentement, tu sais. Puis à chaque contraction, si je résistais, ça commençait à me faire mal. Puis là, quand je disais, OK, oui, je suis prête à vivre cette expérience-là, cette initiation-là que Noé va apporter avec lui, ben là, ça faisait comme, comme une espèce de décharge énergétique où la contraction n'était plus du tout une douleur, mais je sentais juste mon bébé descendre. J'étais comme, oh my God! Tu sais, j'avais encore des sensations de mon corps, même si j'étais comme plus vraiment là, genre. C'était vraiment spécial. Puis il y a un moment donné où ça a été la contraction là, qui m'a amenée encore plus haut. J'ai encore Jésus qui me tient les genoux, qui est à genoux, qui me regarde, qui me dit « Celle-là, c'est que tu vas apprendre que chaque membre de la famille a son rythme et tu vas apprendre à l'accueillir et à accepter, à respecter et honorer tout ça. » Puis là, moi, ça me faisait peur à un certain degré parce que j'avais des challenges que je ne vais pas nécessairement nommer, mais qui étaient associés à ça. C'était vraiment l'ultime contraction pour moi, là, tu sais. Puis ça m'a pris du temps à dire oui, là. Puis là, je résistais, puis ça me faisait mal, puis ça me faisait mal. Ça s'intensifiait, ça s'intensifiait jusqu'à temps que j'accepte enfin. Quand j'ai dit oui, là, ça allait encore passer comme... La douleur allait arrêter complètement, puis c'était comme une vague qui me faisait descendre davantage mon enfant, tu sais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'arrive tellement dans les cieux, là. C'était vraiment ça, mon impression. J'ai vu des entités différentes que comme un humain, là. Puis quand je suis arrivée, je me sentais à la maison, puis ils se sont retournés vers moi, puis ça avait l'air vraiment d'un paradis, c'était incroyable. Puis ils m'ont dit, hey, bienvenue, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ton fils est prêt, on te le remet. Puis je l'ai pris, mes yeux se sont ouverts, j'ai regardé mon chum, j'ai dit, OK, ça y est, c'est prêt, fais-moi des oreillers, genre une pile d'oreillers dans le lit, je m'en viens, sors-moi du bain, s'il te plaît, c'est maintenant que ça se passe. Je suis sortie comme de fait, genre, ça a pris même pas une heure. J'ai poussé mon fils, puis that's it. Il est né. J'étais comme, what the fuck?
What? T'es malade? Que j'aime vraiment, ben, j'aime toute de ton histoire, c'est vraiment... j'étais complètement absorbée par ce que tu disais, mais il y a quelque chose que... Genre, je veux vraiment qu'il est important pour moi de mettre de l'avant puis qu'on met pas de l'avant puis que tes expériences démontrent encore une fois, c'est à quel point quand qu'on est dans un environnement adéquat, l'accouchement nous amène dans des états de conscience altérés.
Oui, complètement. J'étais complètement gelée, en guillemets, en bon québécois, là. C'est comme...
C'est ça, tu sais, ça ressemble vraiment à... une expérience chamanique ou, tu sais, quasiment avec tu sais, je veux dire, quand tu prends de la psilocybine ou de l'ayahuasca, tu sais, t'es des expériences un peu comme ça de... Tu ressens ton corps, mais en même temps, t'es dans une espèce de d'autres dimensions où t'as des visions, tu sais, puis effectivement, le cocktail hormonal nous amène vraiment, tu sais, scientifiquement, là...
Oui, physiologiquement, on peut l'expliquer. On peut expliquer comment ça peut, à un certain degré, altérer notre esprit. Mais plus on se laisse aller, plus, moins il y a de peur, plus il y a de laisser aller, plus le cocktail augmente. Là, t'sais, la dose, elle augmente, puis elle augmente, puis elle augmente, puis elle augmente. Là. Plus les gates sont ouvertes, là, tu t'en vas dans ton plein potentiel. Puis moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu cette expérience-là. Je le dis, j'ai accouché comme une déesse, là, ça c'est... J'ai pas eu aucune déchirure, je comprends pas ce qui s'est passé, j'étais tellement, genre, wouhou, genre, tu sais, comme, genre, c'était tellement ça. Puis, en même temps, je veux pas faire peur, mais je me dis, de montrer que c'est une expérience, tu sais, c'est vrai, ça s'est passé, tu sais, je compte pas de mensonges, puis mon conjoint était témoin, puis ça peut arriver, ça peut être une possibilité... Puis j'ai vraiment l'impression que je l'ai vécu comme une expérience chamanique. Si je peux être vraiment raw avec toi en ce moment, j'ai déjà fait de la MDMA dans ma vie. J'en ai pas refait. J'en ai fait comme une ou deux fois maximum. Et j'ai catché, tu sais, quand j'ai eu ma première expérience d'enfantement avec ma fille, que ça pouvait m'amener dans cet état-là. Puis là, j'ai compris. Puis là, j'ai fait des liens parce que dans le fond, tu sais, l'ocytocine est release en masse dans quand tu prends de la MDMA, mais c'est vraiment ça, là, quand tu accouches aussi. Et là, quand j'ai expliqué ça à mon conjoint, ça lui a permis de comprendre le trip, entre guillemets. Et là, il était comme, OK, je catch. Il faut pas qu'il y ait d'éléments extérieurs qui perturbent ton expérience. Donc, il faut absolument que tu sois tout le temps dans un sweet spot pour pas que tu tombes dans un bad trip, tu sais. Je suis comme, c'est exactement ça. Puis, il a tellement collaboré aussi à ce que ça, ça puisse arriver, que ça m'a mis dans mon plein potentiel. J'aurais été curieuse de mesurer la quantité d'hormones qui étaient dans mon corps à ce moment-là, de cocktails qui pouvaient justement agir comme analgésique, mais comme conscience aussi altérée, là où j'étais vraiment dans une expérience chamanique, puis clairement que c'était ça. J'aurais été curieuse de pouvoir le mesurer, mettons, tu sais.
C'est clair. Ben, tu sais, faut quand même rappeler que la MDMA, tu sais, on l'appelle aussi ecstasy. Fait que, tu sais, comme l'expérience d'extase en accouchement, c'est pas une joke quand on dit que c'est possible, là. C'est vraiment. Il faut juste avoir, justement, un environnement adéquat, tu sais, de sécurité, surtout, de lancer aller.
Mais, tu sais, de sécurité intérieure et extérieure, tu sais, on mise beaucoup sur l'extérieur, mais on doit, nous aussi, en tant que femmes qui vit cette expérience-là, se connaître, connaître nos peurs, connaître nos blocages à certains degrés pour être capable de lever ce chemin-là. Puis moi, la doula, je la vois vraiment comme une chamane, tu sais. Je la vois vraiment comme une chamane qui va l'idée, exemple, une expérience d'ayahuasca, par exemple, puis qu'elle va vraiment supporter l'ombre et la lumière là-dedans, puis elle va vraiment être là, dans le portail avec la mère, tu sais.
Ah ouais.
Moi, c'est vraiment comme ça que je vois une doula. Ah,
j'aime ça, c'est tellement hot. Puis en même temps, effectivement, comme tu le dis, tu sais, moi, ce que je dis tout le temps à mes mamans, c'est ce que tu as à faire en grossesse, là, parce que la grossesse, c'est la phase de préparation à l'accouchement.
Oui.
C'est en grossesse, t'as pas besoin de savoir dans quelle position faut que t'accouches. T'as pas besoin de savoir des cours prénataux. Ce que t'as besoin de savoir, c'est qu'il faut que tu travailles sur toi, justement, que tu travailles sur ton intérieur. Parce que l'environnement extérieur est quand même facile, entre guillemets, à protéger. Il s'agit de choix assez faciles dans certains cas, mais l'intérieur, c'est un long chemin. Déjà, en 40 semaines, c'est pas très long pour faire ce chemin-là. Heureusement, on est aidé parce que pendant la grossesse, on est quand même sur ce que j'appelle l'autoroute spirituelle. Là. Ça va vite. Mais si t'as pas commencé avant, là, c'est vraiment le temps. Il faut que tu te concentres sur tes blessures, sur tes peurs, sur ci, sur ça. Puis c'est ce que je pense qui est le plus important à faire en grossesse. T'sais.
Ah oui, complètement. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais ouais, effectivement, c'est... En tout cas, je pense que c'est le chemin à prendre si on se questionne sur comme par où commencer. Moi, je pense que c'est la réponse, c'est consolider tout ça, tu sais. Ouais.
Puis d'ailleurs, j'aimerais bien finir par te demander... Ben non, en fait, j'ai deux dernières questions. Mais, tu sais, tu disais tantôt que toi, tu travaillais avec les femmes plutôt avant la maternité. Y a-tu quelque chose que t'aimerais comme mettre en lumière, tu sais, quelque chose que si les mamans qui nous écoutent pensent avoir un prochain enfant, puis pourraient commencer leur cheminement personnel déjà.
Oui, ben en fait ça me donne envie d'expliquer que ben d'annoncer que tu sais j'ai un livre qui va sortir au printemps 2024. J'ai vraiment hâte. C'est un gros travail, ça a été un long processus. On est encore dedans. Mais je commence à être de plus en plus contente de ce qui s'en vient. Et ce livre-là, je le vois vraiment comme un livre guide qui, vraiment, c'est un livre pour honorer son corps et sa féminité, mais c'est surtout pour, justement, laisser tomber des choses qu'on peut entretenir avec nous, notre intimité, notre vision de nous-mêmes en tant que femmes. Et j'enlève beaucoup de poids sur les épaules. C'est vraiment comme ça que je le vois, ce livre-là. C'est comme au début, t'as comme un gros poids, puis à la fin, ça va t'alléger assurément. Et je parle justement de certaines histoires, dont la chasse aux sorcières, mais puis plein d'autres trucs qui nous font travailler sur un cheminement de ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas. Ce que je veux tasser de mon chemin, ce que je veux consolider, comment je veux retourner ou qu'est-ce que je souhaite ramener vers moi. comment je souhaite m'aligner pour être encore plus dans ma propre vérité en tant que femme. Je dis bien femme parce que c'est vraiment le processus, là, on parcourt à travers l'histoire, mais on s'en va aussi à travers notre lignée. Donc, c'est plein de clés, ce livre-là, où ça nous permet justement de réfléchir à des choses qu'on veut laisser aller. Et ça va nous faire amener dans toutes sortes de contenants, toutes sortes de réflexions qui nous permettent justement de se préparer à un nouveau chapitre de notre vie. Que ce soit de vouloir plus s'affirmer, se révéler en tant que femme, aimer plus son corps, la maternité. Tu sais, c'est comme ça englobe tout ce que peut amener le parcours d'une femme sur la terre, tu sais. Donc, moi, c'est que vraiment comme ça que je le vois. Fait que si je peux répondre à ta question à travers ce livre-là, ce livre-là, c'est des éléments, tu sais, de personnel et professionnel que j'ai mis ensemble, qui sont vraiment comme un parcours initiatique. Et de comprendre d'où on vient dans l'histoire, de comprendre ce qui nous a modelé, ce que notre lignée nous a transmise, de comprendre aussi notre relation directe avec notre corps, puis tout ce qui est possible aussi, ça nous permet de laisser aller beaucoup de peurs et de croyances qui pourraient entraver le chemin, justement, par exemple, de la maternité et beaucoup d'autres expériences. Mais je pense que je réponds à ta question à travers le fait que j'ai annoncé que mon livre va sortir au printemps.
C'est un plus gros teaser. Moi, j'ai déjà hâte de le lire, mais en tout cas, à suivre, c'est super. Vraiment, félicitations. En tout cas, tu nous as vendu le truc comme jamais. Moi, j'ai vraiment hâte.
Merci.
Et ma dernière question pour toi, je finis toujours comme ça. Est-ce que tu considères avoir aimé accoucher?
J'ai adoré accoucher. C'est les plus belles expériences de ma vie. Vraiment.
On est rendu tellement loin dans la peur qu'il y a des mamans qui veulent même plus avoir d'enfants juste par peur d'accoucher. Et je veux vraiment démontrer à travers les récits de partage et de transmission que ben il y a beaucoup de femmes qui adorent et aiment beaucoup accoucher. Fait que...
Oui, c'est ça. Puis si je peux me permettre de dire à ces femmes-là que justement tout ce dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que les derniers propos là, que j'ai eus à propos du livre, ce que moi j'ai remarqué dans mon travail d'accompagnante, de doula, c'est que souvent ce qui entravait le chemin puis qui amenait des complications dans un accouchement, c'était des éléments déclencheurs qui étaient beaucoup à l'interne, qui n'étaient pas nommés, qui étaient gardés, refoulés pour plein de raisons, puis qu'ensuite ça amenait son lot d'interventions. Et on sait aussi que les interventions en amènent d'autres. Donc, c'est comme un gros cocktail. Mais je veux juste dire que plus on est franche, intègre et humble avec cette expérience-là et avec soi, plus il y a de chances que ça soit fluide comme expérience. T'sais. Si on est capable de nommer les choses, déjà, c'est un gros travail de fait. Là. C'est ça que j'ai envie de dire. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté.
Ouais. Merci. Merci tellement d'avoir partagé. C'était passionnant.
Merci à toi.
On va attendre patiemment ton livre. Puis en attendant, ben, si vous ne l'avez suivi pas déjà, faut aller voir Maman Sacrée.
Sur Instagram. Puis Instagram. Oui, c'est exact. Sur Instagram, c'est la plateforme où après ça, vous avez accès à pas mal tout. C'est là où vous pouvez aller voir c'est quoi mes prochaines offres, etc. Je m'en vais en pèlerinage tout le mois d'octobre au sud de la France. Je m'en vais sur les traces du féminin occulté. C'est comme ça que je le vois. Je m'en vais découvrir d'autres choses, déterrer d'autres choses. J'ai hâte de voir le prochain chapitre. Et voilà!
Merci! Bonne chance!
Merci! OK, à bientôt! Bye-bye!
Je nous ai arrêtés.
Les récits de naissance, c'est un peu comme la transmission de savoir à l'ancienne. Et donc, je t'invite à partager l'épisode de podcast, si tu l'as aimé, pour encourager la transmission de savoir de femme à femme.